ce soir, on va commencer en douceur, en accueillant des revenants. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Quel est ce fantôme qui vient gratter à ma porte? Quelle est cette forme que je vois grimper sur le mur? Tu sais que je ne peux pas t'aimer davantage. Les paroles de la chanson qu'on vient d'entendre semblent évoquer une sourde menace. L'orchestration offre à la mélodie, plutôt simple, une enveloppe à la majestueuse ampleur, sorte de symphonie au son électro, un peu beaucoup d'ailleurs rétro. C'est un paysage de crépuscule qui s'étend sous nos yeux, on ne sait trop, l'horizon d'un lac, une forêt, les toits d'une ville, une barre d'immeubles, que sais-je, tout un monde sur le point de disparaître d'un moment à l'autre. toute proche de sombrer dans la nuit et qui flamboie une dernière fois dans une ambiance poignante. Cette chanson nouvelle s'appelle The Tipping Point, c'est une expression qui en anglais signifie précisément le moment de bascule, et elle est l'œuvre d'un groupe, d'un duo plutôt, qui, en ce début d'année 2022, fait son retour, comme je le mentionnais. Son nom vous dira peut-être quelque chose, Tears for Fears. Un duo qu'on formait il y a bien longtemps déjà, ça fait plus de 40 ans, deux amis d'enfance dans la ville anglaise de Bath, c'est une ville d'importance moyenne, sans histoire, qui se situe dans le sud-ouest de l'Angleterre. La musique de Tears for Fears, il faut le rappeler, a marqué en profondeur la période des années 80, peut-être plus qu'un groupe comme U2, et en tout cas bien plus que Depeche Mode, dont le succès est allé croissant, ce qui n'a pas été le cas de Tears for Fears, qui a plutôt suivi une courbe descendante. Bien sûr, le nom de Tears for Fears a perduré. Les deux qui ont constitué le duo, au lieu de persévérer tous les deux côte à côte, ne sont pas restés ensemble, ceci explique peut-être cela. À un moment donné, en effet, au début des années 90, le chanteur, compositeur et guitariste Roland Orzabal a estimé, ou s'est laissé convaincre, qu'il n'avait plus besoin de son camarade, le chanteur et bassiste Kurt Smith, et que Tears for Fears, c'était lui tout seul. Hélas, les albums peu nombreux que Orzabal a réalisé comme seul maître à bord de Tears for Fears au cours des 10 ans, en gros les années 90, qui ont suivi leur séparation, il n'y en a eu que deux plus un autre de lui en solo, n'ont pas convaincu le public. Et quand tardivement, en 2004, les deux amis se sont retrouvés pour un album qui portait le titre pas très encourageant de Everybody Loves a Happy Ending, tout le monde aime une belle fin, eh bien, il était trop tard. Le moment de Tears for Fears semblait passer depuis longtemps, et puis, de l'aveu de Orzabal et Smith, déjà, le cœur n'y était plus. Et pourtant, coup de théâtre, les deux amis ont décidé l'année dernière, l'année de leurs 60 ans, il n'est jamais trop tard, de se retrouver pour enregistrer un nouvel album apparaître d'ici 3 semaines. Un album intitulé, comme la chanson que vous venez d'entendre, The Tipping Point, que Roland Orzabal estime, c'est assez étonnant, être le premier album signé Tears for Fears à correspondre exactement à l'ambition qu'il avait pour sa musique, à égalité seulement avec le premier The Hurting, qui est sorti en 1983. Oui, c'est assez étonnant. Il considère que les deux albums qui comptent parmi les plus populaires des années 80, je veux parler de Songs from the Big Chair, qui est sorti en 85, et The Seeds of Love, je crois que c'était en 89-90, constituent, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, une dilution de ce que représentait Tears for Fears. Alors comment expliquer ça? Eh bien, il faut peut-être un petit retour en arrière, pas trop long, puisque je reviendrai longuement à Tears for Fears, ce sera jeudi, pour une sorte de concert idéal, de concert rêvé du groupe. Au début des années 80, il faut rappeler qu'est né un courant que les Britanniques ont appelé synth pop, c'est-à-dire, traduction littérale, pop synthétique. Pour dire les choses simplement, l'ambition de ces musiciens était de composer, interpréter des chansons mélodieuses, lyriques, romantiques, des chansons soul d'une certaine façon, mais reposant, c'est ça qui était nouveau, sur les sons alors considérés comme froids des synthétiseurs et de nouvelles machines comme les samplers ou échantillonneurs. Bien sûr, David Bowie avait été un des premiers à anticiper tout ça, mais c'était pas encore extrêmement populaire. Bref, faire du show avec du froid, c'était très nouveau à l'époque de Madonna, dans une période qui valorisait le culte joyeux de l'argent, un certain hédonisme, comme on dit, un certain cynisme grimaçant, une sorte d'indifférence cool et détachée. Une période d'ailleurs, cet état d'esprit, il y a un livre qui en témoigne très bien, c'est le remarquable premier roman de Bret Easton Ellis, Less Than Zero, à moins que zéro. Alors, totalement à contre-courant, et c'était pas les seuls, on peut parler de groupes comme U2, Simple Minds, etc., Tears for Fears abordait dans les chansons de son premier album des thèmes très sombres. Une de leurs chansons les plus connues d'alors, Mad World, avait d'ailleurs un refrain qui disait « Les rêves dans lesquels je meurs sont les meilleurs que j'ai jamais faits ». Eh bien, la mort est, 40 ans plus tard, le thème central de ce nouvel album du duo, donc de Tears for Fears, et dans la chanson qu'on a entendue juste au début de ce programme, The Tipping Point, eh bien, Roland Orzabal évoque en fait la perte d'un être cher, en l'occurrence sa femme, son amour de jeunesse qu'il a eu la douleur de perdre il y a de ça 5 ans. On reviendra donc à Tears for Fears Podcast dans l'émission de jeudi prochain. Alors, il y a un autre groupe qui est né en cette riche période du début des années 80, un groupe qui est également toujours en activité et qui a également fait son retour très récemment et publié un nouvel album en octobre dernier qui s'appelle Future Past. Vous voyez pas de qui je veux parler, bah vous allez le savoir. Sa musique a pas toujours été très appréciée des puristes de la musique populaire. Bon, je plaide en partie coupable, mais elle a gardé, comment dire, une sorte de pessimisme ample et majestueux. Pour autant, les chansons de Duran Duran, bah oui, c'est de ce groupe-là que je voulais parler, un groupe anglais, n'ont jamais manqué d'être funky, et celle-ci qui s'appelle Give It All Up, à laquelle a participé la jeune chanteuse suédoise Tove Lo, ne fait pas exception à la règle.
Running out of road as the last ray of light. Very Good Trip, Mishka Assayas.
Vous êtes des fidèles de Very Good Trip sur France Inter, évidemment. Vous avez sûrement reconnu le titre que vous venez d'entendre, Peach. Hein, j'ai diffusé cette chanson pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours. Voilà, elle me plaît tellement que je la remets. Mais il faut dire que ça allait très bien dans le programme de ce soir. C'est une chanson signée d'un jeune groupe américain qui s'appelle Future Islands et qui sent les modèles ancestraux de groupes comme Tears for Fears, dont je vous ai longuement parlé au début de l'émission, et Duran Duran, qu'on vient d'entendre aussi, n'aurait sûrement jamais eu l'idée de faire ce genre de musique. C'est vrai, on connaît plein de musiciens en Europe, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui ont rêvé et rêvent encore d'être, je sais pas, Bob Dylan ou Bruce Springsteen. Et ben inversement, quand vous êtes américain, que vous grandissez dans une petite ville portuaire, loin de tout, tout au bout de la Caroline du Nord, hein, dans le sud des États-Unis, on rêve de quoi ? Ben on rêve de David Bowie, on rêve d'Europe, on rêve d'électropop berlinoise, on rêve de tout ce qu'on n'a pas. Et quand ils ont débuté, les trois futurs membres de Future Islands, c'était des ados moyens, amateurs de hip-hop, de metal et de punk, et pour lesquels l'électro-pop européenne représentait justement une sorte d'idéal, de fantasme, d'élégance et de raffinement au parfum décadent. Alors ils ont commencé par le second degré, c'est fréquent, une arme toujours tentante hein, quand on veut se mettre à l'abri du ridicule, puisque le chanteur Sam Herring chantait avec un pseudo-accent allemand, après quoi il a heureusement laissé tomber. L'accent allemand, hein, je veux dire. Future Islands, il me semble que je vous ai déjà raconté, mais c'était il y a longtemps, donc je le répète, voilà, a connu le succès en 2014, un succès qui a toutefois pris ces trois garçons tout à fait par surprise, puisque cette année-là, Future Islands a été invité à jouer un titre pour un programme qui était à l'époque un des plus regardés à la télévision aux États-Unis, je veux parler du Late Show que David Letterman a présenté plus de 20 ans pour la chaîne CBS. Je crois qu'il a arrêté en 2015. Et le passage du groupe a créé une sorte de déflagration. Le public de l'émission s'est levé pour applaudir. La vidéo a été postée sur YouTube, elle a été reprise sur les principaux réseaux sociaux et les réactions, alors faut dire, ont été extrêmement tranchées. Certains ont adoré, d'autres n'ont pas supporté de voir un gars, le chanteur, qui ressemblait à leur collègue de bureau, en train de jouer sa vie en chantant comme un dieu, oui d'accord, mais enfin en dansant en même temps comme un pied. Alors c'est le genre d'histoire qui fait chaud au cœur, parce que Sam Herring, c'est le genre de gars qui est le contraire du cool et du personnage étudié, et pour qui être sur scène, bah, c'est une nécessité vitale pour échapper à ses démons, en l'occurrence la dépression contre laquelle, de son propre aveu, il lutte depuis l'adolescence. Alors retour à l'Europe, voici une voix haute, très agréablement timbrée, cuivrée, très anglaise, celle d'un chanteur londonien du nom de Orlando Weeks, et dont le groupe, vous avez peut-être entendu parler, The Maccabees, a laissé de bons souvenirs. C'est un groupe qui était voilà, un groupe des années 2000, enfin à cheval sur les années 2000 et 2010. C'était un peu, comment vous dire, comme un Foles, mais en plus subtil, des chansons très réussies, puis qui a connu un vrai succès aussi. Le groupe s'est séparé en 2016, voilà, son heure était passée, enfin il est arrivé ce qui arrive habituellement. Orlando Weeks a mûri, s'est installé en couple, il est parti vers d'autres aventures, il a composé des musiques instrumentales, il s'est remis au graphisme, qui était son premier métier. Il est devenu père. Ça change beaucoup la vision du monde. Et son premier album solo, paru l'année dernière, Quickening, une accélération, portait déjà la marque d'une certaine sérénité, d'un certain détachement mélancolique aussi. Et la couleur musicale était celle d'un certain folk jazz très anglais. C'est un fil qu'on peut tendre depuis Robert Wyatt, fin des années 60, début des années 70, jusqu'à des années plus récentes, Damon Albarn. Cela dit, Orlando de Weeks, si l'on en croit ses dires, s'est permis dans sa musique, dans ses chansons, des choses que jusque-là il s'interdisait. Voilà, c'est ce qu'il explique, écrire des chansons où il est pour la première fois, pour lui, question de joie de vivre, de bonheur d'exister, de flotter, enfin autant que faire se peut. Il faut dire que ces derniers temps, ça n'a guère été facile, dans une forme d'insouciance. Et franchement, la voix haute et, je vous disais, très cuivrée de Orlando Weeks dégage quelque chose de vraiment tendre, quelque chose de vraiment chaleureux, même si la mélancolie n'est jamais tellement loin. L'album nouveau de Orlando Weeks s'appelle Hop Up, c'est une expression qui signifie excité ou stimulé, et la chanson a pour titre Big Skies, Silly Faces. In the sky.
sky has its way. My mind against mine, better thinking, know the feeling, but wonder why life's so easy with a mindful life. So easy with a mindful life. So skipping meals, still nobody knows.
Under Your Shirt, c'est le nom de la chanson. Vous avez entendu la voix puissante, tout en lyrisme, mais aussi en retenue, du jeune Norvégien Matt Tesson. Je l'ai déjà diffusé ce mois-ci, alors j'insiste. En plus, voilà, ça allait parfaitement dans le programme de ce soir. On commence tout juste à connaître Matt Tesson, je vous le disais, en dehors de la Norvège, mais enfin, il devrait aller très loin. Je vous parlais tout à l'heure du retour de Tears for Fears. Voici un autre retour, alors c'est plus obscur, le retour d'une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et c'est dommage, parce que c'est vraiment une des plus belles des années 80, celle d'un chanteur au nom absolument imprononçable par un Français, mais enfin, je vais essayer, Cathal Coughlan, voilà, à peu près. On a parlé de lui, enfin, dans un certain milieu de connaisseurs, dans le courant donc de ces années 80, dont je vous parlais tout à l'heure, le groupe irlandais Micro Disney. Peut-être ça dira quelque chose à certains, un groupe qui était actif vers le milieu des années 80, qui a beaucoup séduit les amateurs d'un certain rock indépendant, venu des îles britanniques, c'était la période de Prefab Sprout. Alors à ce moment-là, on regardait beaucoup du côté d'un certain rock californien swingant, aux accords jazzy, parfois brésilien, aux mélodies très élaborées. Michael Disney a révélé surtout le talent d'un remarquable musicien, Sean O'Hagan, fondateur des High Llamas, un groupe qui a réinventé à sa façon, le versant psychédélique et jazzy des Beach Boys. Bref, ce Cathal Coughlan, qui était donc le chanteur du groupe, avait une belle voix grave, lugubre, avec quelque chose de cruel et de déchirant aussi. Une voix qu'il avait mise au service des mélodies très californiennes composées par le guitariste Sean O'Hagan. Comme je vous disais, c'était quelque part entre les Beach Boys du début des années 70 et un groupe comme Steely Dan. Et puis, Coughlan a ensuite animé dès la fin des années 80 le groupe Fatima Mansions, où il avait adopté un style plus brutal, hein, quelque chose d'assez violent, de sardonique. Et puis, il a publié dans les années 90 et 2000, une série d'albums ultra confidentiels où l'on peut découvrir des chansons très puissantes, voilà, si on a la curiosité de fouiner. Et alors, Coughlan a publié récemment un album solo, le premier depuis 10 ans, qui s'appelle Song of Coughlan, ça s'écrit C-O-A-K-L-A-N, ce qui est une clé, voilà, pour prononcer son nom, qui s'écrit Coughlan, si vous voulez. Et il a retrouvé, d'ailleurs, à l'occasion de cet album solo, son camarade de Michael Disney, Sean O'Hagan. Et le voici à présent, en 2022, associé à un autre musicien irlandais, Jack Knifley, qui a pas mal collaboré dans les années 2000 avec le groupe U2, parmi bien d'autres activités. Et Coughlan et lui viennent de créer un duo du nom de Téléfils. Alors j'ai vu une critique dans un magazine, quoi, voilà, j'ai lu ça très vite en diagonale, ça m'a rendu curieux, et ce que j'ai écouté m'a vraiment impressionné. Il y a presque rien en fond musical, il y a une sorte de vague bruit cosmique interstellaire, peut-être c'est le son du télescope James Webb, parti, comme vous le savez, à la recherche des images des origines de l'univers. Et il y a la voix de Coughlan qui est génialement déformée par le procédé souvent exaspérant de l'autotune, vous savez, ce rectificateur de fausses notes, hein, pour les chanteurs et chanteuses, on entend ça partout. Mais enfin, là, ça crée, comme disait Sigmund Freud, une sorte d'inquiétante étrangeté. Téléfils dans Falun Gong Dancers, c'est sur France Inter, ce soir, dans Very Good Trip.
San Isidro entry, interrogated twice. USA for dummies, the precious gift of life. Dazzled, dancing under ribbons, long stage in white light. By the London Embassy, in the rain light cry. Beijing High
dance for Falun Gong. Burnt up as a pauper in Sydney or Jakarta, she danced. I worship. She can speak in dragon and levitate through walls. She can touch me sweetly, then wickedness will fall.
Step into the air.
impossible pour moi dans le cadre de ce programme à la résonance lyrique et romantique et mélancolique aussi, voilà, de ne pas perdre une occasion de perdre une occasion de vous faire entendre la très belle voix de Guy Garvey, le chanteur du groupe anglais du nord de l'Angleterre, Elbow, qu'on a entendu dans la chanson titre de son tout nouvel album qui s'appelle Flying Dream One. On y reviendra, c'est promis. Pour se quitter des voix féminines, alors une qui s'imposait dans ce programme qui tourne autour aussi de l'électropop, c'est celle de la new-yorkaise Mitski, elle aussi, hein, je vous l'ai fait écouter récemment. Son nouvel album Laurel Health sort vendredi prochain et ce titre s'appelle Heat Lightning. Et après, alors je vous préviens en toute loyauté de vous entraîner dans une chevauchée nocturne à travers les contrées du bizarre. Il y aura d'abord la norvégienne Ellen A.V. Sunde, dite Sea Change. Alors, vous l'entendrez, c'est une ambiance assez inquiétante, un rythme lancinant, mais c'est pas franchement dansant pour autant, comme le son d'une lointaine invasion d'insectes au son démesurément amplifié, et puis par-dessus la voix d'une jeune femme qui susurre sur un ton qui n'est ni rassuré, ni rassurant. La vignette accompagnant ce morceau montre d'ailleurs le visage en noir et blanc d'une jeune femme blonde dont la tête est traversée par un couteau de cuisine à la taille démesurée. Ouais, je vous rassure, il n'y a pas de sang. Enfin, je vous aurais quand même loyalement prévenu, et tout de suite, c'est Mitski dans Heat Lightning.
Felt the fire.
France Inter.
There's a place only you've seen. There's a let me begin again. Babies appeared as babies, eating the dark sour olives. Let me begin.
Bring Me Water, une nouvelle chanson signée Keely Forsyth. Je vous avais parlé, c'était fin 2020, donc il n'y a pas très longtemps, de cette Anglaise d'une petite quarantaine d'années qui avait jamais rien enregistré auparavant et qui a été l'auteur d'un des albums les plus surprenants donc de cette année-là, 2020, Debris, hein, comme débris quoi. Alors elle est bien connue dans le Royaume-Uni comme comédienne, elle a joué dans de nombreux téléfilms et séries et elle a adressé ses chants, alors on pourrait dire ses psalmodies qu'elle avait enregistrées sur son ordinateur, à un compositeur et pianiste de jazz très connu, Matthew Bourne, qui s'est passionné pour ce qu'il a entendu. Alors, violoncelliste, il joue également de l'harmonium. Bourne a créé un écrin extraordinaire pour les 8 titres de l'album Debris, où l'on parcourt des paysages sonores sur lesquels flotte la voix captivante de Keely Forsyth à l'extrême bord d'une folie qui semble bien proche. Voilà, merci beaucoup à Stéphane Ronxin et à Laurent Baudouin qui a réalisé l'émission. Merci également à François Merlin qui était à la discothèque de Radio France aujourd'hui, à Zora Ben Smali pour le site internet. Tout de suite, on se retrouve tout de suite après ça.